On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour. On va déguster, c'est aussi tous les samedis de l'été à 11h pour une collection d'émissions consacrées aux cuisines étrangères. Aujourd'hui, un pays d'Asie qui rime avec kimchi, c'est la Corée du Sud. Je vous propose d'embarquer pour un périple gastronomique à Séoul que nous avions diffusé en juillet 2016. Bon voyage et bon appétit.
On y va pour les deux plats du jour.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça. Délicieux.
Vous avez carpaccio de bœuf bouilli. C'est marqué pancake, mais c'est style galette à la coréenne. Normalement, ça fait avec des haricots mungo. Par contre, le fameux guksi, c'est ça la nouille à la coréenne.
Souriez, on va déguster ce mets à l'heure d'été. Il fait beau sur toute la France ou presque. Alors on met ses doigts en éventail, on noue sa serviette autour du cou, on dégaine son couteau et sa fourchette, ou plutôt non, il va nous falloir des baguettes et une cuillère aujourd'hui. Car on met le cap sur la Corée du Sud, bien sûr. Il paraît qu'on surnomme la Corée du Sud le pays du matin calme. Et pourtant, ces casseroles ne sont pas vraiment calmes. On les trouve plutôt du genre agitées, pimentées, aillées. Bref, une cuisine à fort, très fort tempérament. Une cuisine encore méconnue, qu'on explore aujourd'hui avec un journaliste qu'on aime beaucoup, peut-être bien l'un des meilleurs spécialistes de la cuisine asiatique. Il a déjà signé un livre sur la cuisine thaï dont il était venu nous parler il y a quelques mois. C'est notre ami journaliste belge Jean-Pierre Gabriel. Bonjour.
Bonjour et merci beaucoup.
Merci d'être là et d'avoir fait le voyage, spécialement en Thalys, depuis Bruxelles. Hein.
Exactement.
C'est là où vous habitez.
Ouais.
Combien d'allers-retours vers Séoul?
Une vingtaine au moins, oui.
Ah, quand même.
Ouais, ouais.
On peut dire que vous êtes tombé amoureux de ce pays.
Oui, quand même, oui.
Et vous y organisez même. Vous allez nous en dire un mot, le Séoul Food Festival depuis quelques années, et vous vous surprenez de temps en temps à cuisiner coréen à la maison. Vous
oui,
allez nous
entendu.
Expliquer quelques-unes des recettes que vous nous avez apportées, Jean-Pierre. J'ai eu la chance de partir avec vous à Séoul il y a quelques semaines. J'en ai rapporté une carte postale sonore autour d'un plat très typique qu'on va vous faire découvrir au fil de cette émission. Vous voulez un petit indice? Oui, c'est pas très ragoûtant, et pourtant je vous assurais que le résultat en bouche est
c'était
proprement délicieux. C'était moi ou mon invité, je ne sais plus exactement, mais je sais pas si je fais autant de bruit que lui d'ailleurs. Non, j'y arrive pas. Pour m'accompagner dans cette aventure, aujourd'hui Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors vous Elvira, je crois que vous n'avez pas eu la chance encore de partir en Corée.
Non, malheureusement.
Mais vous allez évoquer une passion culinaire qui d'ailleurs n'est pas sans rapport avec la Corée.
Je vais évoquer une passion, oui, vous parlez d'un petit, petit ravioli asiatique qui commence à faire pas mal de bruit.
Et que vous êtes allé chasser
et
à Paris.
Et je dois notamment. Avouer que j'en suis tombée, bon, on peut dire j'en suis tombée amoureuse, tout simplement.
Absolument,
voilà.
C'est Connexion Galaxie Ravioli avec vous, Elvira, dans le courant de cette émission. Juste avant de croquer la Corée, on vous met sous la dent nos bons plans de l'été.
On va déguster les saveurs de l'été.
Elvira Masson, bec sucré devant l'éternel. Alors vous nous avez confié une mission, remonter des oubliettes gastronomiques, une douceur oubliée qu'on a fait goûter.
Et qui croustille.
À notre invité Jean-Pierre Gabriel. Alors verdict.
Ben c'est quand même très caramélisé.
Oui.
Donc on est sur une pâte feuilletée sans aucun doute, je suppose, quand je vois les strates.
Bravo, c'est ça ou pas?
Pour l'instant, c'est ça.
Oui. Il est fort.
Et alors, bon, maintenant, métier, hein. le sucre, je sais pas si c'est un sucre brun ou un sucre, peut-être un sucre de canne.
Je suis pas sûr qu'Elvira ait la réponse d'ailleurs.
Je suis pas sûr qu'il faille aller aussi loin.
Ouais, bon, mais non, mais c'est parce que je trouve qu'il est fort, un peu brûlé.
Oui, c'est vrai. On approche un caramel qui a des saveurs presque à la limite de l'amertume. Hein.
Oui, tout à
on
fait.
On est dans
l'amertume
totalement. Dans la torréfaction et on n'est pas loin d'arriver au moment où ça peut être un poil trop cuit.
Mais
et
oui,
c'est précisément l'enjeu de cette spécialité.
Oui.
Elle s'appelle Arlette.
Ah.
Et je vous annonce le grand retour d'Arlette. Et donc, une Arlette,
Arlette.
Arlette, ben je vais vous dire de qui il s'agit précisément.
D'accord.
C'est un genre d'hybride entre une tuile et un palmier, qui est doré comme
exactement.
Un caramel.
C'est vrai qu'on retrouve un peu le côté feuilleté et caramélisé du palmier, qui est d'ailleurs un truc
une
que
de mes passions aussi, voilà. Une autre. C'est quand même assez diaboliquement croustillant, c'est très fin, et c'est réalisé en effet, Jean-Pierre, à partir de pâtes feuilletées que l'on abaisse sur du sucre glace, tout simplement.
Sucre glace, hein,
voilà.
Ah oui.
Alors, il est devenu assez difficile d'en trouver parce que c'est passé de mode. C'est fragile, c'est facilement trop cuit. Effectivement, il y a un risque. Ça se conserve mal parce qu'en fonction de l'hygrométrie, ça peut devenir mollasson. Et le lendemain, c'est pratiquement immangeable.
Ouais.
Donc, c'était pas très, très rentable pour les boulangers pâtissiers. Et cette spécialité doit son nom à Arlette Lenôtre, la femme de Gaston Lenôtre. C'est donc Gaston Lenôtre qui a inventé cette spécialité. Enfin, en tout cas, si j'en crois Gilles Marchal, le grand pâtissier que l'on a déjà reçu ici, et qui m'a confié effectivement cette anecdote sur l'origine de cette spécialité. Mm-hmm. Il propose des arlettes dans toute leur splendeur, dans sa nouvelle fabrique de biscuits, qui s'appelle la Compagnie Générale de Biscuiterie. On est à Montmartre, du côté de la rue Constance. Et c'est un endroit assez génial, avec un labo complètement ouvert, où vous pouvez le voir, lui et son équipe, confectionner biscuits, sablés, arlettes.
Wow. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a effectivement cette amertume en début.
Ah, moi j'aime bien ça.
Mais c'est très long.
Oui.
C'est vrai. Ça reste très long en bouche,
oui.
Très plaisant. On attend le thé ou le café, même pas le café, non, ça irait être un petit thé là derrière, ça pourrait être pas
Absolument.
Mal.
Absolument. Ai-je le droit de vous dire que j'ai mangé des arlettes toute mon enfance?
Mais quel âge avez-vous, François-Régis?
Non, je n'ai que 40 ans. Mais il se trouve qu'il y avait dans un lieu de vacances que je fréquentais, Chamonix, la station de sport d'hiver, il y avait une pâtisserie-boulangerie qui s'appelait Fleury, pas très loin du centre de Chamonix, et ils faisaient une spécialité comme ça de pâte feuilletée vraiment caramélisée au sucre, très très fine, qu'ils avaient surnommée, alors c'était pas la Arlette,
ouais.
Ils l'appelaient semelle de guide.
Semelle de guide, oui, c'est un peu moins poétique.
J'y suis retourné il y a quelques années, ils ne la faisaient plus, en m'expliquant que ça n'avait plus de succès auprès de la clientèle.
Est-ce qu'on lancerait pas un appel?
Le retour,
oui.
Voilà, absolument. Le retour de la Arlette,
des
semelles
de guide. On veut Arlette.
Absolument. Eh bien écoutez, parfait, merci beaucoup Elvira. Moi, pour mon adresse de la semaine, je vous emmène aujourd'hui dans une des grandes stations balnéaires de la côte atlantique. Ambiance forêt de pins, dunes et bains de mer. Où ça? À Arcachon. Ça vous dit quelque chose?
Le Vénard.
Depuis le centre, j'emprunte le boulevard de la plage qui longe la mer et je m'arrête devant une maison de charme à la façade blanche et bleue. Alors là, vous vous dites, ça va être ambiance justement Darjeeling, petit cannelé et Arlette ou brasserie pour un plateau de fruits de mer ou d'huîtres du Cap Ferret. Eh bien, pas du tout. Atmosphère zen, béton lisse, lustre design, vaisselle chinoise accrochée au mur, un grand comptoir en bois blond et derrière ce comptoir, dans un nuage de vapeur, David et Danny Kong. Ils sont frères et sœurs. Ils sont cambodgiens, aux origines chinoises et thaïlandaises. Ils sont arrivés en France dans les années 80. Ils font une délicieuse tambouille qui est vraiment à l'image de leurs origines, c'est-à-dire asiatique fusion, mais dans le bon sens du terme. Vous connaissez le piège en général, Jean-Pierre. Cuisiner asiatique, c'est souvent prendre le risque soit de tomber dans la cantoche un peu louche, pas très fraîche, soit de tomber dans la table fusion un peu trop bling-bling. Rien de tout cela ici. Mélange de cuisine cantonaise, nippone, des influences thaï et d'Asie du Sud-Est. Tout ça s'en mêle très très bien avec un certain sens de l'harmonie et surtout un vrai souci de fraîcheur. Parce que l'adresse est située sur le bassin d'Arcachon et cela a un sens. Il y a des moules locales, sautées au wok avec du gingembre frais, des blancs sèches, sautées avec des agrumes et du shiso. Tiens, le shiso, Jean-Pierre, c'est la fameuse herbe aromatique japonaise qu'on retrouve beaucoup dans le répertoire
coréen.
Hein.
Tout à fait, oui.
Cette espèce de grande feuille.
Ils appellent ça la feuille de sésame d'ailleurs.
Absolument. Mais Périlla.
Mais Périlla,
c'est ça.
Tout à fait. On fait aussi, comme on a l'huile de sésame, en Corée, ils font aussi une huile de Périlla, qui est la graine étant légèrement différente.
J'ai eu l'occasion
de la goûter. Le goût est fort similaire, mais bon.
La feuille de shiso, ça a vraiment un goût très particulier. Certains lui trouvent d'ailleurs un petit goût de cumin. C'est des notes comme ça, un peu épicées, de cette herbe aromatique aux larges feuilles. Des poissons locaux travaillés, à la citronnelle, galanga, combava, un peu à la thaï, ça vous connaissez bien aussi. Et moi, j'ai goûté surtout une soupe de nouilles de riz avec un bouillon de bœuf. Mais alors, un bouillon de bœuf très, très sapide. Umami, dirait Jean-Pierre Gabriel. Relevé d'oignons rouges, de ciboules, de coriandre fraîche. Et même le dessert était intéressant. Perles de coco, tapioca, classique, avec une bonne mangue. Pas locale, malheureusement. Elle vient d'un peu trop loin, mais bon, elle était fraîche et elle avait du goût. Tout est assez épatant dans cette adresse, même ce petit patio comme ça avec une vigne muscat, une tonnelle. Mais il y a juste un problème, c'est le nom. Alors là, attention, je prends mon souffle. Kosometsuke Doka. Alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ne me demandez pas ce que ce nom veut dire. À Arcachon, tout le monde a raccourci et dit Doka comme deux Kong. David et Danny Kong, le frère et la sœur. C'est 156 boulevard de la plage à Arcachon. Kosometsuke Doka. Batlick avec le titre Avalanche. Bel été sur France Inter.
Ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Oui, les les apparences, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. C'est là, ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant un quoi, bah c'est ça. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde. Mais ouais, malgré les apparences, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. C'est là, ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un bleu de Chine. T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça a déteint sur toi comme un bleu de Chine. Regarde juste là, t'en as. Malgré les apparences, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. C'est là, y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dedans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi.
Ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché.
Malgré les apparences, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le berge. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige.
On va déguster ce mets à l'heure d'été.
Et on va déguster à la coréenne, Jean-Pierre Gabriel. Attaquons par quelque chose qui n'est pas un plat, qui n'est pas non plus un repas, qui n'est pas vraiment d'ailleurs une recette, c'est plutôt une technique, une tradition populaire qui excite d'ailleurs depuis quelque temps les papilles des gourmets du monde entier. Pourquoi ? Parce que c'est une tradition identitaire et si identitaire, si caractéristique de la cuisine coréenne, qu'elle a, figurez-vous, fait l'objet d'une inscription il y a 3 ans, en 2013, au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vous voyez de quoi je veux parler ou pas, Jean-Pierre Gabriel?
Je crois qu'on parle du kimchi, non?
On n'a pas grand-chose à vous apprendre en même temps.
Mais non, mais là, c'est pas facile.
Mais alors, kimchi, certains de nos auditeurs, derrière leur poste, ont vaguement entendu parler de ce phénomène, qui est pourtant, encore une fois, hein, vraiment le plat, la technique caractéristique de la cuisine coréenne. Qu'est-ce que c'est exactement?
Le kimchi, c'est une sorte de choucroute, on va dire, mais c'est la même famille. Donc on est sur des fermentations, excusez-moi un peu le parti un peu scientifique, acido-lactique.
Oui.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On met du sel. Qu'est-ce que va faire le sel? Le sel va faire sortir non seulement l'eau cellulaire, mais aussi les sucres qui sont dedans, dont les sucres, et on va les transformer. On transforme en alcool, puis en acide. Donc on va avoir quelque chose qui va être légèrement acide, qui va être très frais. Alors, le chou,
c'est un chou,
c'est le chou qu'on appelle le chou chinois, chou coréen, donc absolument. On appelle baechu,
qui est un peu de forme oblongue comme donc, ça,
de forme oblongue qu'on trouve d'ailleurs chez nous. Hein.
Oui.
Alors, il y a toutes sortes de kimchi. Alors, il faut quand même savoir que il y a une sorte de gradient du sud au nord. Le sud étant plus chaud, on aurait un kimchi plus épicé qui maintenant s'est répandu à toute la Corée du Sud. Mais en Corée du Nord, même s'il a une triste réputation, on aurait un kimchi blanc, beaucoup plus blanc, parce qu'il fait plus froid.
Oui.
Donc, on n'a pas besoin de ces piments pour faire transpirer, pour faire...
C'est vrai qu'on a souvent l'image d'un kimchi rouge, c'est-à-dire un kimchi qui, en plus d'être fermenté, chou fermenté, il est hautement pimenté.
Hautement pimenté parce qu'on utilise ce qu'on appelle le gochu, on reviendra au gochu après, qui est un piment. Mais alors, il faut savoir que c'est récent, on estime que le kimchi a 1500 ans d'histoire.
Oui.
et le kimchi pimenté est commencé de toute façon après 1592, après l'invasion japonaise, c'est qui ça. Ont amené les piments venant d'apport d'Amérique du Sud.
Absolument.
Amenés par les Portugais sans doute au Japon.
Absolument.
Donc voilà. Donc ça c'est une première chose. Alors le kimchi, au départ, c'est une manière, et donc c'était fait en novembre, c'est une manière de garder des vitamines pour l'hiver.
C'est ça.
Donc ça veut dire que...
On conserve le légume.
On conserve le légume et on mettait le pot en terre est vraiment un emblème de la cuisine coréenne. D'ailleurs, c'est l'emblème qu'ils avaient choisi à l'exposition de Milan. Donc, ce pot en terre dans lequel on fait la pâte de soja, la sauce soja ou la pâte épicée de soja, mais aussi le kimchi et quelques autres préparations. Tout à l'heure, je vous ferai déguster un truc sucré qu'on appelle le méchil. C'est aussi fait dans des pots en terre, à partir de prunes de la même famille que les houmés de la cuisine japonaise. Mais enfin, bon. Pour revenir au kimchi, très important, je me rappelle l'an dernier, j'étais avec Albert Adria, qui est donc le frère de Ferran.
Frère de Ferran Adria. Alors, Ferran Adria, on resitue pour nos auditeurs, c'est le père de la cuisine moléculaire, voilà, qui était à Rosas,
voilà,
en Catalogne.
Voilà, etc., etc. Albert a maintenant 6 restaurants à Barcelone, qui marchent tous du tonnerre. Il fait même un restaurant à Ibiza en été avec le Cercle du Soleil. C'est vraiment un génie de la cuisine.
Chef
c'est
très réputé sur très la scène internationale de la gastronomie.
Une capacité d'absorber les choses. Et on est parti ensemble avec lui et un autre chef assez remarquable qui a maintenant le nouveau restaurant In Situ du nouveau MoMA à San Francisco, Corelli. Et on est parti voir une moine. Et alors, les gestes importants. Donc, vous avez ce chou, vous le coupez en deux.
Oui.
Ensuite, vous le refendez à la base parce qu'il faut que vous puissiez faire qu'est-ce que vous pouvez faire? Prendre du gros sel et bien masser le feuillage.
Mm-hmm.
Ça, c'est la base. Mais la base se complexifie pour en faire quelque chose qui a beaucoup plus de saveur.
Et de délicatesse.
Et la saveur qui va venir vers quoi? Alors, il y a le kimchi du pauvre, on va utiliser un peu de poire, un peu de daikon, donc le radis blanc. On va utiliser quelques autres choses, mais il y a des kimchi plus évolués. On va mettre de l'huître dedans. On va mettre des pignons de pin. On va mettre des châtaignes. Les châtaignes coréennes sont, Pascal Barbeau vous le direz, sont à tomber raides, vraiment. Donc voilà, on peut faire ça. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, on va ajouter ce piment parce que je crois qu'aujourd'hui, 90% du kimchi que l'on mange en Corée est du kimchi, on va dire, pimenté, épicé, rouge.
Qui lui donne d'ailleurs cette couleur rouge.
Oui,
hein.
Voilà. Le baek kimchi, qui est son ancêtre, donc qui est le kimchi blanc, a tout à fait un autre aspect, une autre forme et une autre saveur d'ailleurs.
D'accord.
Une petite chose quand même.
Juste, attendez, oui. On met ça dans des jarres en terre cuite, évidemment. Ça part pour combien de temps de macération, de fermentation?
Ça part de quelques semaines à quelques mois, mais moi j'ai déjà goûté des kimchi qui avaient 2-3 ans.
Et alors, ce kimchi, on le mange à toutes les sauces, on le mange dans quelles circonstances? On le mange à la maison, au restaurant, ça accompagne des plats, c'est un condiment.
Même sur une station essence, vous allez prendre un potage sur une station essence, on vous sert du kimchi.
D'ailleurs, pardon, mais ça agresse les narines de certains visiteurs occidentaux quand même, le kimchi un peu partout.
Oui, il y a d'autres choses qui agressent, l'ail agresse encore plus.
L'ail?
Oui. Mais dans le kimchi, il y a aussi de l'ail d'ailleurs.
Car, paraît-il, on s'est renseigné, oui, les Coréens, et c'est ça qui fait que la cuisine coréenne est aussi, on le disait, une cuisine à très fort tempérament. Figurez-vous que les Coréens sont les premiers consommateurs au monde d'ail.
Oui, c'est tout à fait logique. Hein,
ce qui peut paraître assez surprenant. Vous évoquiez le nom d'un chef connu en France.
Pascal Barbeau.
Connu absolument des gourmets, puisqu'il est le propriétaire et surtout le chef 3 étoiles du restaurant Lastrance, Paris 16e. Il a eu une révélation, il y a quelques années, on peut vraiment parler de déclic, de choc émotionnel quand il a visité la première fois la Corée. Eh bien, il nous en parle, il tente de nous donner comme ça une définition, sa vision de la cuisine coréenne.
Tout de suite, on va annoncer cuisine coréenne, sachant que c'est le pays le plus gros consommateur d'ail au monde. Donc on imagine la puissance, on imagine la force, on imagine le piquant, le piment, des notes très aillées, des notes assez marquées. C'est vrai que le fait simplement de manger une queue de bœuf bouillie, il ne se passe pas grand-chose. Donc on a le bœuf, on a ou un bol de riz qui est nature, ou des nouilles simplement sans goût. On n'a que de la texture, nature. Mais il faut chercher, en fait, elle n'est pas séduisante de suite. Il faut chercher, il faut se déplacer, elle ne vient pas de suite sur un plateau. Parce que les produits ne sont pas forcément séduisants, utilisés, mais le fait d'appliquer ces techniques de conservation, donc rendre l'ail beaucoup plus élégant, on est beaucoup plus dans la douceur, de la rondeur, justement, le sucre apparaît, on a vraiment cette subtilité qui arrive. Et justement, ce que j'aime beaucoup dans la cuisine coréenne, c'est d'arriver à rendre une simple feuille sauvage, élégante, en utilisant un petit peu, on va lui donner du caractère avec de l'ail, justement. Et en fait, tous ces saveurs très marquées vont jouer le rôle du détonateur un petit peu dans un plat, le rôle de l'assaisonnement. Et c'est ce que je trouve de très intéressant. Et le fait d'ajouter ce kimchi fermenté, d'ajouter cette sauce soja, d'ajouter cette note piquante, va donner du relief extrêmement intéressant au plat. Donc c'est une cuisine avec beaucoup de relief. Il faut imaginer une chaîne montagneuse avec des petites aiguilles et des grands pics, justement. C'est pas du tout une cuisine linéaire. Et on a vraiment beaucoup de relief. Donc des fois, on va un petit peu trop haut. Complètement, je le conçois. Mais quand on retombe, justement, on a des solutions pour pouvoir remonter. Et c'est extrêmement intéressant dans la cuisine.
Pascal Barbeau, à qui j'ai tendu mon micro à l'occasion du Séoul Food Festival. C'est un grand festival de gastronomie à Séoul que vous organisez tous les ans, Jean-Pierre Gabriel.
Oui.
C'est reparti pour l'an prochain ou pas ?
Oui, normalement, oui, oui.
Et qui contribue vraiment à braquer les projecteurs sur cette cuisine dont on entend de plus en plus parler, avec cette cuisine effectivement à fort tempérament, particulièrement pimentée, particulièrement aillée, on l'a dit, très portée sur les techniques de fermentation et de conservation. Est-ce que vous pourriez nous en donner un petit exemple ? Vous avez une recette
tout
absolument...
à fait simple. En fait, je crois que ce que Pascal Barbeau dit souvent, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que de la cuisine coréenne, on peut prendre des choses et les instiller dans d'autres recettes.
C'est d'ailleurs ce qu'il fait. Hein. C'est exactement. Il y a désormais une véritable influence coréenne dans sa cuisine.
J'aime pas le mot fusion dans ce cas-ci, mais c'est plutôt une infusion. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on connaît tous l'oignon. Là, on a affaire à un chonkaji d'oignon.
Alors, n'en dites pas trop, parce qu'on va jouer un peu. Hein.
Oui.
Chonkaji. Elle vira devant elle une assiette avec deux petits tas. On peut deviner effectivement des rondelles d'oignon que vous avez joliment émincées. Ils sont de couleur...
Mais ça, c'est une évolution aussi, parce qu'en Corée, en général, c'est des gros morceaux d'oignon et je trouve ça assez indigeste. C'est pour ça que là, je l'ai émincé.
Finement.
Oui, la mandoline.
Alors, votre sentiment, Elvira, est-ce que vous y avez aventuré vos baguettes ?
J'y vais de ce pas, enfin les doigts en l'occurrence.
Oui.
Une version croque. Plus claire, oula, waouh ! Une version assez relevée, assez pimentée.
Pimentée. Il y a très peu de piment, mais ça a très fort absorbé.
Et l'autre ?
Et l'autre, il n'y a pas de piment.
Plus brune.
Oui.
Pas de piment.
Ne dites rien, Jean-Pierre.
La même famille de recettes, effectivement, il y a une parenté évidente, mais quelque chose de plus... comment dire, plus complexe, moins immédiat, moins...
Mais ce que vous venez de manger, parce qu'il y a une fermentation plus longue, mais ce que vous venez de manger à 3 ans.
La version la plus brune ?
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut parler de pickles à la coréenne ?
Oui, absolument. Oui, absolument. Pickles, marinade, saumure à la coréenne. Et d'ailleurs, en fait, le principe de ce qu'on appelle jangaji, il y en a plusieurs types, mais avec la sauce soja. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a un mélange de sauce soja, par exemple, 25 centilitres, 18 centilitres de vinaigre de riz. Il faut un vinaigre assez rond. Ne prenez pas un vinaigre de vin trop fort, parce que sinon, ça va trop acide. Ouais. Et ce qu'on a d'ailleurs dans le second, parce qu'il y a un petit peu de vinaigre de vin.
Et la bonne nouvelle, c'est le vinaigre de riz, on le trouve désormais facilement dans le commerce.
Du sucre, 150 grammes de sucre et 3 décilitres d'eau. Vous pouvez monter un peu en eau selon votre... La sauce soja va jouer également un rôle. Si vous avez une sauce soja plus concentrée, on va plus la sentir. Vous voyez, ça dépend un peu de la sauce soja que vous allez utiliser. On trouve maintenant de la sauce soja coréenne également, qui est assez intéressante, parce qu'à la différence de la japonaise, elle ne contient que du soja. Là où la japonaise contient aussi une partie de céréales, si vous voulez.
Donc, c'est effectivement les oignons marinés aigres doux, vraiment à la coréenne, par Jean-Pierre Gabriel. Recette à retrouver sur le site internet de l'émission, franceinter.fr, à la page On va déguster. Sauce soja, vinaigre de riz, sucre semoule, eau minérale, toutes les proportions dans la recette. Et on utilise évidemment ces pickles, soit par exemple pour accompagner, pourquoi pas, un foie gras.
Oui,
accompagner une viande rouge au barbecue,
dans une salade,
superbe.
Même dans une salade, là où on met de l'oignon, on peut remplacer par ça.
Comment ça se passe justement à la table coréenne ? Racontez-nous un peu. Déjà, première question, on dit souvent baguette pour manger à la coréenne, mais c'est un peu plus compliqué que ça.
Non, c'est baguette et cuillère, parce que on va prendre une série de choses avec la cuillère, notamment tout ce qui est potage, tout ce qui est soupe, tout ce qui est soupe de nouilles, etc. On va prendre avec les baguettes, mais on va terminer le plat avec la cuillère. On va parfois servir aussi, par exemple, si on a un poisson grillé, on va servir de la cuillère pour découper le, puisqu'on n'a pas de couteau, pour découper le poisson grillé. Alors, pour ceux qui vont pour la première fois en Corée ou dans un restaurant coréen, le challenge, c'est quand même que ces baguettes sont en métal. Et ça, je vous assure, au début,
c'est un enfer.
C'est un enfer, oui. Voilà.
On s'en met partout.
Voilà. Mais alors, donc, la table coréenne, ce qui est fantastique, c'est qu'elle crée un équilibre. Vous avez votre plat principal, qui peut être un poisson grillé, par exemple. On pourra parler des grillades à un moment donné. Vous avez le riz, qui est le neutre, la neutralité, qui n'est pas salé.
C'est vraiment la céréale, c'est le pain des Coréens.
Pain, hein. Qui n'est pas salé.
Comme en Chine,
parce
comme au Japon.
Parce que le sel va venir de tous ces plats d'accompagnement.
C'est ça.
Et notamment tous ceux qui sont, comme le kimchi, qui sont faits, qui sont des fermentations acido-lactiques, donc à base de sel, donc c'est un peu salé, ou les jangaji, puisque la sauce soja, et n'oubliez jamais qu'une sauce soja de base contient entre 25 et 30% de sel.
Donc c'est le condiment qui sèle en fait les préparations.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'on est assez surpris, on a fait quelques restaurants ensemble à Séoul et ailleurs. Vous avez un plat principal que vous commandez, et là vous voyez atterrir une espèce de mezze à la coréenne, vous vous dites ils se sont trompés, et en fait c'est effectivement votre plat principal qui est comme ça rééquilibré.
Balancé.
Pascal Barbeau parlait de montagne russe.
Oui,
vous avez toute une série de
et
petits plats satellites.
Et c'est là qu'on trouve le kimchi ?
Oui, bien sûr, le kimchi. Ou le jjankaji, ou des légumes sautés.
Ou ces fameux oignons
marinés,
absolument.
Concombres également, etc., etc. Mais alors, ce qui est amusant aussi, c'est que non seulement c'est un accompagnement, mais si vous avez terminé votre petit plat, on vous le ramène, on vous le remplit. Donc c'est quelque chose qui doit être en permanence présent sur la table, même dans une station essence.
On fait une petite pause sans quitter, vous allez comprendre l'atmosphère coréenne.
Ari, ari, siri, siri, ara. Ari ari 고개로 넘어간다.
Yoon Sun Na, c'est une figure mondiale du jazz avec le titre Kwang Wondu Arirang. Et dans un instant, on va parler ravioli, on va parler nouilles, mais on va parler également grillade et barbecue, car c'est l'une des spécialités de la Corée.
Ari ari suri suri.
Sur France Inter, on va déguster.
Je suis cuisinier, je m'appelle Ryan Yoon. J'ai fait mes expériences en France pendant 12 années.
Là, on est dans une petite rue qui a l'air assez traditionnelle, à Séoul, avec des maisons pas très hautes.
C'est très ancien quartier. Quartier qui date facilement plus de 500 ans.
C'est là ?
C'est ça, on est là.
Alors là, c'est une petite maison en briques rouge. C'est donc ici qu'on sert ces fameuses nouilles.
Oui, c'est ça. Gukshi, ça veut dire nouilles. C'est un ancien mot coréen. Il y a deux prix en fait. Le premier, c'est normal. L'autre, c'est x2.
D'accord.
C'est double portion.
Et Gukshi, ça s'écrit G-U-K-S-I.
C'est ça, oui. Gukshi.
Eh ben, on va manger des nouilles.
C'est ça, on y va. On attaque.
Jean-Pierre Gabriel, vous reconnaissez ce jeune chef coréen ?
C'est quelqu'un de fantastique au niveau humain. vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable, très professionnel, comme beaucoup de ces jeunes chefs coréens. Et il avait d'ailleurs été élu parmi une des personnes les plus influentes de la Corée, de la jeune génération coréenne.
Absolument, restaurant gastronomique d'inspiration française à Busan, la deuxième ville de Corée au sud-est du pays. Et il m'emmène, ce fameux Yang Yong Yoon, c'est un peu compliqué à...
Wayong Yoon.
Oui, c'est ça, j'y arrive un peu mieux, je vais prendre des leçons de prononciation, hein, je crois. Il m'emmène en tout cas à aspirer les fameux guksi, ces nouilles populaires, dans une cantine modeste d'un vieux quartier de Séoul. On entre, il n'y a plus de place dans la salle à manger principale. La patronne nous oriente vers une petite salle privative. Attention, dégustation.
Ici, le resto, c'était la cantine du président dans les années 90. Après le cuisinier, il a gagné comme Légion d'honneur grâce à ça.
Donc ça veut dire qu'en fait, on est dans une salle privée qui est la salle où le président de Corée du Sud venait déguster ses nouilles.
C'est ça, oui. Il est décédé il y a un an, l'année dernière. Il a dit souvent aux Coréens, il faut économiser au niveau de repas ou au niveau de toutes les dépenses. Il est venu très souvent ici.
Et le fait que le président vienne s'attabler ici, ça a été un énorme coup de publicité, j'imagine, pour le restaurant ?
Gravement, gravement. C'est grâce à ça il a fait un chiffre d'affaires énorme, hein, déjà. C'est normal, c'est pas cher du tout.
Donc ça veut dire qu'en Corée, on peut vraiment se nourrir dans des petites cantines comme ça, pour des prix vraiment très accessibles.
Ah, même moins, ça existe.
Ah, et là, il y a les bols de soupe qui arrivent, les bols de nouilles.
Voilà, oh. Voilà, on a reçu guksi, également appelé kalguksu.
Donc c'est des nouilles un peu comme des tagliatelles.
Pareil, juste eau et farine. Vous faites une pâte, une boule, laisse maturer. Ça prend 3-4 jours. Vous faites un petit rouleau, un petit boudin, taille au couteau, et vous cuisez dans le bouillon dans lequel on sert.
Donc effectivement, et là, c'est un bouillon avec quelques légumes et il y a un petit peu de viande.
Il y a trois façons, soit bœuf, soit volaille, soit coquillage.
D'accord.
Mais ça, comme c'est présentiel, c'est le bœuf.
Bah, on va goûter.
Allez-y, bon appétit.
Vous pouvez goûter pour me dire si elles sont bonnes.
C'est doux. Faut bien remuer parce qu'il y a une partie qui tombe au fond. Vous allez voir, il n'y a plus qu'à vous régaler.
Comment ça s'appelle ce condiment qu'on rajoute ?
Tadegi. De l'ail, du gingembre et du poireau. Et un poudre de piment.
Là, vous en avez mis pas mal quand même ?
Alors, pas beaucoup. Non. C'est... Moi, je ne mange pas des choses piquantes.
D'accord.
Donc, je mets vraiment minimum. Je suis minimum.
Vous n'êtes pas un vrai Coréen, alors vous êtes un peu trop français ?
Non, je suis Coréen. Mais il y a comme ça, quoi. Il y a des gens. Ça n'a rien à voir.
C'est plus relevé. Je vais goûter moi aussi.
Ok, allez-y. Avec modération. Allez-y.
Chewy. So good.
Est-ce qu'on a le droit, comme en Chine et au Japon, de faire du bruit en mangeant ses nouilles en Corée ?
Il faut faire du bruit. Sinon... On se brûle. C'est très chaud. C'est brûlant. Moi, j'avais un problème. Parce que, comme j'ai vécu longtemps en France, c'est interdit, c'est considéré mal élevé et tout.
C'est un peu mal poli de faire du bruit, ouais.
J'ai mangé des nouilles à la française. J'ai la peau qui est gonflée dans la bouche tout le temps. Je sais pas pourquoi. J'ai demandé à ma femme. Ma femme m'a demandé également, pourquoi tu fais pas de bruit ?
Parce qu'en fait, aspirer les nouilles, c'est une façon aussi de les refroidir.
Refroidir, oui. C'est pas une aération comme le vent, mais tu se refroidir. Oui.
Vous l'aurez compris, chers amis, quand vous irez aspirer des nouilles à Séoul ou ailleurs en Corée, il faudra faire le bruit d'un A380 au décollage.
Mais qu'est-ce que ça avait l'air bon !
Aspirer, non mais c'est délicieux.
Oh là là.
Après, il faut... Vous savez les aspirer, les nouilles, vraiment à la coréenne ?
Quand même, oui.
Pardon, oui. Après 20 voyages, c'est sûr que...
J'ai commencé au Japon dans les années 80, alors donc. Mais ce qui est intéressant aussi, que je voudrais dire, c'est que ce restaurant n'est pas le seul. Il y a des dizaines et des dizaines de restaurants monoplats à Séoul, que ce soit pour les nouilles, que ce soit pour les pieds de cochon qui sont à tomber raides aussi, les pieds de cochon cuits dans un bouillon, puis dans un bouillon à sauce soja. Ces restaurants, c'est typique, on fait la file. Et là, c'est le président qui est allé, mais il y a aussi des guides qui disent le meilleur restaurant de nouilles, le meilleur restaurant de ceci.
Vous ne précisez pas, Jean-Pierre Gabriel, que ce sont en plus des petites échoppes très très bon marché.
Oui, on est à 5 euros.
5-6 euros.
Et de nouveau, vous commandez votre plat de nouilles et on vous amène 3 ou 4 accompagnements.
La Corée, grand pays de la nouille. D'ailleurs, on trouve également, pas seulement des nouilles de farine de blé, mais également des nouilles de farine de sarrasin.
Mais ça, voilà, c'est un plat que j'adore.
Un autre point commun avec le Japon. Hein.
Oui, voilà.
Le Japon a les soba, ces nouilles de farine de sarrasin. Et en Corée... Mais
donc en Corée, on a ce plat dont j'oublierai toujours le nom, de nouilles froides de sarrasin.
Namyang.
Namyang. Un peu plus long que ça.
D'accord, excusez-moi.
Et donc, c'est pas grave, mais bon. Je l'ai pas mémorisé. Et j'arrive jamais à le mémoriser. Mais par contre, il y a un autre plat de nouilles que j'adore, moi, qui sont des nouilles, donc les nouilles transparentes, les vermicelles transparentes. Donc, nouilles à base de patates douces, élaborées à base de amidon de patates douces.
Oui.
Qu'on appelle le chapche. Alors ici, j'ai donné une recette végétarienne qui vient d'un temple.
Oui.
Où on n'a pas de viande, mais normalement, on met du bœuf. Donc, on fait sauter un peu de bœuf et on met avec. Donc, c'est une cuisson classique de ces vermicelles.
Comment vous assaisonnez ces nouilles dont les auditeurs pourront retrouver la recette sur le site internet?
La classique coréenne, sauce soja, j'ai mis de la cassonade pour donner un peu plus de goût.
Sucre cassonade, hein.
Oui, voilà. Ensuite, on a de l'eau, du poivre noir, graines de sésame. Ça revient souvent dans la cuisine coréenne. Graines de sésame grillées, ça revient souvent, et l'huile de sésame.
Et oui.
On le retrouve dans d'autres plats, des plats de viande, dans des plats de légumes, on retrouve la même chose.
Elvira, ça se bouscule dans les mails, il y a des suggestions de nos auditeurs.
On peut commencer à constituer un petit carnet d'adresses coréen, plutôt parisien pour l'instant. Un mail de Raphaël Henkin, bruxello-parisienne de retour de Séoul, qui nous recommande Odori, rue Le Tellier dans le 15e, le plus fin et typique à ma connaissance, ainsi que Gwon's Dining, toujours dans le 15e.
Ah, ça je confirme.
Ah ouais.
Gwon's Dining, c'est notamment fréquenté par tous les gens de l'ambassade de Corée. Et on mange là-bas. On mange là-bas un plat absolument étonnant, pour d'ailleurs un budget tout à fait raisonnable, ce sont des huîtres enveloppées dans une...
Dans de la viande.
Le bossam.
Ça, c'est vraiment le grand classique sublime.
C'est sublime. Exceptionnel. Oui. Accord terre-mer, fabuleux.
Et une recommandation également de Kevin Pelot, qui est à la console derrière la vitre
qui adore la
cuisine asiatique, qui nous recommande chaudement Osek Garden. On est du côté de République à Paris, au 14 rue Rampon, dans le 11e.
Et c'est un restaurant, je crois, il me le confirme peut-être derrière la vitre, de grillade, non? Un restaurant pour carnivores.
C'est ça, il opine du chef.
Absolument, et je me suis jamais attablé dans cette adresse, mais j'en ai entendu le plus grand bien à plusieurs reprises, donc vous pouvez y aller, à mon avis, les yeux fermés. Bah tiens, on en est à la viande, parlons justement...
Mais grillade, c'est une des bases de la cuisine coréenne, mais que ce soit pour le poisson, que ce soit pour les légumes, que ce soit pour la viande.
Absolument, mais la viande justement, est-ce que les Coréens n'auraient pas un rapport un peu schizophrène à la viande? Puisque d'un côté, effectivement, l'une des spécialités les plus connues, et qui d'ailleurs fait florès partout dans le monde, c'est ce fameux barbecue coréen. Mmh. Et en même temps, il y a un genre culinaire pour lequel on admire vraiment la Corée, et qui est d'ailleurs un motif de voyage de nombreux chefs, c'est une cuisine végétalienne d'inspiration bouddhiste.
Totalement.
Des temples, mais où là, pour le coup, non seulement la viande, mais toute protéine animale.
Et quelques autres, par exemple, l'ail, le poireau, les jeunes oignons, enfin les cébettes, sont proscrits parce que ce sont des...
Ça crée des pulsions.
Ça crée des pulsions, exactement. Et on n'arrive pas à se concentrer, à méditer.
Donc dans les temples, on oublie, il y a
5 légumes qui sont proscrits.
Et tous ses amis.
Mais c'est très intéressant parce que... Enfin, les deux cuisines sont intéressantes.
Mais alors, est-ce que c'est des carnivores à l'origine, les Coréens?
Non, parce que quand même, c'est un pays qui était très pauvre pendant très longtemps. La viande, d'ailleurs, les grillades sont de Chine, comme beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est, je trouve, de nouveau, si on veut prendre quelque chose de la cuisine coréenne, et si vous me demandez quand je cuisine à la maison pour les enfants, c'est ça, ce sont les marinades pour viande. Et ça, c'est assez fabuleux. Maintenant, vous allez en Corée, si vous êtes un hôte de marque, on vous amènera dans des restaurants où il y a des viandes d'une grande qualité, un peu dans l'esprit du bœuf de Kobe ou du Wagyu.
Avec d'ailleurs des races locales, hein, des races coréennes.
Une race coréenne, mais qui a été développée seulement dans les années 70. Ce qui veut dire que la Corée est un pays qui a mis du temps à se développer et a mis du temps à acquérir une certaine richesse pour se payer ce genre de...
Et en même temps, est-ce qu'on mange pas un peu trop de viande? Enfin, on va pas entendre le débat, s'il y avait une grande découverte que j'ai faite en Corée quand même, c'est la cuisine végétalienne.
Bien sûr, tout à fait.
Avec sensation et des émotions et des textures spectaculaires.
Quand vous parlez de schizophrénie, le plat national, c'est ce qu'on appelle le doenjang jjigae, donc qui est en anglais c'est un stew, un genre de pot-au-feu à base de pâte de soja et de tofu. Donc il n'y a pas un gramme de viande. Mais quand vous le mangez, vous avez vraiment le sentiment qu'il y a de la viande dedans, tellement les protéines qu'on a dans la pâte de soja sont énormes. D'ailleurs, on a fait des recherches récemment, et si on regarde un profil aromatique, vous mettez du café, de la sauce soja et de la pâte de soja, et vous avez le même profil aromatique qu'un fond de bœuf.
Incroyable.
Ouais.
Et ça, vous disiez que c'est le plat national, donc ce ne serait pas le bibimbap, le plat national.
Ah!
Si vous allez au restaurant, vous avez toujours du Indo Enjang Jjigae. Si vous allez dans un restaurant, vous prenez le menu, vous allez toujours à un moment donné, on vous amène Indo Enjang Jjigae.
Bon, on est largué là, Jean-Pierre. Oui. Bibimbap.
Bibimbap. Okay, comment sur le bibimbap?
Non, non, c'est pas ça. C'est que la différence Enjang Jjigae, alors on a bien compris.
Enjang Jjigae, c'est à base de pâte de soja. Enjang, c'est pâte de soja. Donc c'est ce ragoût de pâte de soja. Voilà.
C'est ça. Et le bibimbap qu'évoquait Elvira.
Alors ça, c'est autre chose.
De le goûter. Bap. Je crois que c'est un des plats que vous adorez à
j'adore
Paris.
Ça, ouais.
Bap, c'est riz.
Oui.
Bibim, c'est mélanger.
C'est ça.
Donc on peut faire du bibim avec des nouilles également. On met des nouilles avec plein de légumes, on mélange, on va faire un bibim de nouilles. Bref. Donc bap, c'est du riz cuit en plus. Comme gimbap. Donc gimbap, c'est le sushi coréen.
Absolument.
Pour la petite histoire, qui ne s'est développé que dans les années 70.
D'accord.
Donc c'est assez récent. Et la différence du Japon, où le sushi, vous devez le manger à la seconde où le chef le prépare devant vous, en Corée, il est préparé d'avance.
Il est un petit peu maturé.
Voilà. Revenons à bibimbap.
Bibimbap, donc il s'agit d'un grand bol à base de riz.
Il y a du riz, et puis vous avez une série de légumes. Vous avez de nouveau la même chose. Vous avez des légumes qui vont être sautés, vous avez des légumes qui vont être marinés, vous avez des champignons. Dans certains, vous avez de la viande, même de la viande crue. Il y a un fameux bibimbap à Jeonju, où on met de la viande crue. Donc un genre de tartare, Jeonju.
C'est où?
Dans le sud, je ne sais plus si c'est est ou ouest, mais c'est dans une des provinces du sud, qui est une des provinces gastronomiques du pays.
D'accord.
Et donc là, on va mettre, et dans certains, on va mettre aussi de la viande, on peut mettre de la viande cuite. Si les gens n'aiment pas la viande cuite, on mettra de la viande cuite.
Il y a un œuf au plat aussi, hein.
Il y a un œuf au plat dans certains bibimbap également. Ça dépend un peu. Alors, ce qui est, qu'est-ce qu'on voulait dire? Oui. Alors, il y a un autre truc très amusant. Dans le bibimbap, c'est la pâte épicée, le gochujang.
Et voilà.
Ouais. Alors ça, je sais pas si vous aimez.
Ah si, c'est délicieux, c'est ça qui fait tout le génie de ce plat d'ailleurs. Voilà. Le dosage de cette pâte-là.
Justement, voilà, le dosage, vous avez raison, parce que chacun doit doser.
Voilà, exactement.
Son niveau de piment.
Même dans les avions, on vous met le petit tube, dans Korean Air, vous met un petit tube et vous dosez ce que vous voulez.
Est-ce qu'on peut dire pour nos auditeurs que c'est une sorte de harissa coréenne?
Oui, tout à fait. À la différence près, avec tout le respect pour nos amis tunisiens, à la différence près que comme un des constituants du gochujang, c'est la base qui permet de créer la pâte de soja ou la sauce soja, vous avez une palette aromatique beaucoup, oui, beaucoup plus large.
C'est moins rustique. Enfin, c'est en tout cas très complexe.
Ça peut être rustique. D'ailleurs, j'en ai là, si vous voulez. Mais
je suis pas sûr de pouvoir continuer.
C'est pas l'heure.
Je vais être aussi rouge que la couleur de mon micro. Dans un instant, on va évoquer la viande, puisque vous en parliez à travers une petite recette assez géniale que vous nous avez préparée. Les Coréens mangent aussi la viande crue, c'est ce que l'on va voir, en tartare, avec un assaisonnement un peu particulier. On joue le suspense, car en attendant, Elvira a également son mot à dire.
Sur France Inter, je déguste, tu dégustes, on va déguster.
Racontez-nous votre voyage, votre quête spirituelle.
Je ne suis pas allée très loin, je suis allée dans le 8e arrondissement.
Vous êtes allée quand même assez loin en sensation.
Ah oui, très loin, ouais. De ce point de vue-là, oui. Je me suis attablée hier, pour tout vous dire, au comptoir du Mandou Bar, rue d'Édimbourg, dans le 8e arrondissement. À Paris, un quartier où il se passe pas grand-chose en termes de restaurants, c'est le quartier des luthiers. On est plutôt dans les partitions, le solfège, les instruments de musique.
Oui.
Alors j'ai fait ce périple, hein, parce qu'il faut bien donner un petit peu de sa personne, il faut bien mouiller un peu la chemise. Mm-hmm. Mandou Bar, comme Mandou, que l'on orthographie M-A-N-D-2-O, en anglais, plutôt dans les pays anglo-saxons, et plutôt Mandou, M-A-N-D-U, ailleurs, en tout cas en France, on l'orthographie plutôt ainsi. C'est le nom des raviolis.
Ça c'est un truc.
Format demi-lune, qui sont l'un des emblèmes, parce qu'on a compris que cette cuisine est quand même très très riche, c'est l'un des nombreux emblèmes, l'un des nombreux totems de la cuisine coréenne. Mandou que l'on commence seulement à découvrir en France, mais qui connaissent un certain succès, voire un succès fou, un peu partout dans le monde, je pense notamment aux États-Unis.
Oui.
On compte pas moins d'une vingtaine ou d'une trentaine de bars à Mandou à New York, mm-hmm, et ce depuis une bonne quinzaine d'années. Encore plus à Los Angeles, où il y a un vrai quartier, Koreatown, qui est très riche en adresses, je pense plus ou moins recommandables, mais quelques adresses qui sont très très appréciées. Alors à la carte de ce Mandou bar parisien... 4 propositions de raviolis concoctées par le chef Kim Kwang-lok. Yatché mandou au chou asiatique, tofu et ciboule. Gogi mandou au mélange de porc et de bœuf. Kimchi mandou au kimchi.
Le kimchi qui farcit un ravioli.
Mais oui. Et bulgogi mandou au bœuf mariné à la sauce soja.
Vous avez choisi quoi?
Les 4. Voilà. J'ai pris 4 fois 8 pièces. C'était superbe, magnifique. Des bouchées fumantes, luisantes. à l'œil un petit peu fragile parce que la pâte était presque translucide du fait sans doute du mélange de farine de blé et de riz gluant qui donne ce côté effectivement translucide, presque transparent. On devinait cette farce au travers de la pâte légère, la farce d'une légèreté, des saveurs très délicates, très bien marquées. Bon, j'ai adoré les quatre spécialités,
Vous savez à quoi elle me fait penser cette sensation ? Un gros bisou à un French kiss.
Non, mais c'est ça.
Très sincèrement, franchement, le mandou quand il est bien fait, c'est vraiment un baiser langoureux.
Oui.
Et il y a une espèce
glissant
de texture, c'est absolument
incroyable.
Mais c'est
pas visqueux, c'est pas gélatineux du tout, c'est parfaitement équilibré.
Ils étaient dans un bouillon ou bien ils étaient...
Non, ils étaient vraiment en panier vapeur, cuit vapeur.
Okay, oui.
Et on les trempait tout simplement dans un petit mélange de sauce soja et d'huile de sésame. Vous parliez de sésame, effectivement, on les trempait dans ce mélange. Alors, on est effectivement assez loin de ce qu'on a pu goûter comme ravioli asiatique ces dernières années, même s'il y a du très très bien aussi. Mais on a goûté pas mal de jiaozi chinois et autres gyoza japonais qui peuvent être très bien faits, mais qu'on nous sert la plupart du temps grillés. Ce qui est la différence avec ce que j'ai goûté. Et par ailleurs, ils sont parfois un peu de l'abattage, ça peut être de la production de masse. Ce que j'ai goûté moi, donc, c'était des bouchées vapeur. Mais il me semble, Jean-Pierre, si je dis pas de bêtises, c'est qu'on peut les trouver.
En général,
servis de
plein de manières.
Il faut savoir
que tout ce qui est bouché, tout ce qui est dumplings en anglais, tout ce qui est bouché.
Les dumplings, ce sont les raviolis. Hein.
Voilà, vient de Chine.
Oui.
L'origine, c'est chinois. L'origine, on part d'une pâte qui compris, c'est farine et eau. Avec une absorption de 40% d'eau. Et ça, on le retrouve partout. Par exemple, les kinkali, en Géorgie, qui sont venus par la route de la soie, c'est 40% d'eau. C'est la même chose. En Géorgie et dans certains en Chine, on a une pâte assez épaisse. On est sur 1,5 mm, 2 mm. Et c'est ça qui fait le problème. Mais votre mélange, dont vous avez cité farine et riz gluant, on le retrouve dans une autre recette dont vous avez parlé, je crois, sur votre site. C'est le pajong. Donc cette crêpe de cébette.
De cébette ou de ciboule, hein.
Et alors, on a des recettes classiques, on a des recettes qu'on trouve dans la littérature où on n'a que la farine de froment et les œufs.
Absolument.
Mais en général, il faut ajouter aussi pour cette légèreté la farine de riz gluant.
Une espèce de pancake dont on a d'ailleurs indiqué la recette sur le site internet de l'émission. C'est absolument délicieux. En général, ça fait office d'entrée dans un restaurant coréen.
Qu'on se partage.
Et c'est de la ciboule, de la grosse ciboulette qui est vraiment
avec
comme ça, en crêpe
épaisse. Avec des crevettes, avec des fruits de mer.
Et des fruits de mer et plein de petites choses, parfois des haricots mongo, qu'on appelle d'ailleurs à tort souvent des pousses de soja, mais c'est vraiment délicieux. Elvira.
Vous parliez de l'héritage chinois en matière de ravioli. On dit aussi beaucoup que le mandou serait arrivé dans la péninsule coréenne lors des invasions mongoles au XIVe siècle. Mongols qui venaient de soumettre la Chine. Donc effectivement, via la Mongolie. À l'époque, les raviolis étaient appelés sangwa ou gyoja, ce qui est le nom actuel des raviolis japonais. Et c'est au XIXe siècle seulement que ce ravioli aurait pris son nom moderne de mandou. Lequel mandou a un nom qui n'est pas très éloigné de Manti.
Eh ben oui, il y a peut-être
Manti.
Même un cousinage.
Ben oui. Ce qui nous emmène de la Corée à l'Arménie, un autre pays effectivement où l'on trouve... Mais y a-t-il un pays au monde où on ne trouve pas de raviolis? C'est la question. Qui nous emmène à l'Arménie, où on trouve ces raviolis qui sont de la pâte de blé, des raviolis plutôt ouverts, dont on distingue la farce, qui est en général composée de bœuf ou de mouton, et dont on dit également qu'ils sont un héritage des Mongols. Alors moralité, quand est-ce qu'on vous invite, Jean-Pierre, pour faire une émission sur la cuisine mongole, mère de tous ces raviolis?
Non, mais par contre, on peut quand même dire que vous connaissez très bien un pays où on pratique le ravioli, qui est la Géorgie.
Oui.
Vous préparez même un livre sur le sujet.
Pas tout de suite, mais il va arriver, oui.
D'accord.
Tout
de
suite. Entre les kinkali géorgiens, les pelmeni russes, les kozukatai indiens et nos bonnes vieilles ravioles du Dauphiné, je crois qu'on aurait de quoi faire une émission sur les raviolis.
Oui, absolument, les ravioles de Royan.
Et les farces. Et les farces, c'est fabuleux.
Et l'Italie dans tout ça, elle vient.
L'Italie, sa tradition de ravioli serait originaire de Perse, donc on s'y perd.
Quelque chose.
En tout cas, l'archéologie culinaire a pas encore fait toute son œuvre. C'est assez compliqué comme ça de détecter les origines de chacune de ces spécialités. Mais il y a en tout cas, c'est ça qui est intéressant, des cousinages évidents. Merci beaucoup, Elvira. Vous m'emmenez quand en Mandoubar?
Bah non, on y retourne la semaine prochaine.
Vous nous rappelez l'adresse ou pas?
C'est au 7 rue d'Édimbourg, dans le 8e,
alors,
à Paris.
Il faut réserver. Hein.
Ah oui,
autant
faut
vous
réserver.
Dire,
il y a 12 couverts.
Il y a 12 couverts. Ouf, c'est plein à longueur de journée. Je crois même pouvoir dire que c'est moi qui ai découvert cette adresse.
C'est fort possible.
Et c'est extraordinaire.
Alors, très vite, il y a 3 cuissons, comme pour tous les raviolis. Oui. Donc, la cuisson vapeur, la
friture.
Cuisson dans un bouillon, qui peut être un bouillon de bœuf. Et on peut le servir en bouillon, et la cuisson frite.
Et on peut même les servir dans du lait de soja froid.
Oui.
Et le Mandoubar propose également, non seulement des raviolis, mais également une chose délicieuse que vous n'avez pas goûtée.
Non, que j'ai vu passer, qui était magnifique, un tartare de bœuf.
Elle est un peu d'humeur veggie en ce moment.
Un tartare de bœuf.
Un tartare de bœuf, parce qu'on parlait effectivement de cette viande qui est également consommée crue. Et vous en faites un tartare de bœuf à la maison.
Oui, c'est facile.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, le tartare de bœuf à la coréenne?
Dans deux choses. sésame et sauce soja dans l'assaisonnement, plus le sésame grillé, donc on a ce petit côté noisette du sésame, et très intéressant pour la fraîcheur, mais aussi pour l'enzyme qui digère un peu la viande, c'est de la poire. Alors on peut mettre de la poire coréenne, mais si on en a la poire qu'on appelle la poire asiatique ou la nashi japonaise, c'est la même,
oui.
Ou de la conférence.
C'est
mais
ça.
Ce petit côté poire apporte vraiment quelque chose de très intéressant.
Elvira, il y a un message d'auditeur.
Encore une adresse de Pauline Nalboui qui nous fait part de ses deux restaurants coréens préférés. Je vais au Lee In aux Deux Terres, allée du docteur Leijzer Zamenhof à Toulouse.
Ah, enfin une adresse en région.
Ou Jinji à Blagnac.
Voilà. À Blagnac. Vous constatez que la cuisine coréenne commence à...
Doucement, hein.
À vous trouver.
Doucement, oui. Le pays où ça a le plus évolué en quelques années, c'est l'Australie à Sydney. Sydney, maintenant, il y a aussi sa Koreatown.
Mais il y a quand même...
Ça évolue, oui, ça évolue. Mais je trouve que c'est encore lent.
Un intérêt renouvelé pour la cuisine coréenne. Désormais, la gastronomie devient un motif de voyage en Corée du Sud. Le guide Michelin, d'ailleurs, s'intéresse à cette gastronomie, puisqu'il y a une génération de chefs coréens très intéressante qui se développe. On l'a vu à Busan avec notre ami de Merciel, mais il y a également d'autres... cuisiniers, d'ailleurs souvent formés dans des pays occidentaux et beaucoup en France, qui travaillent notamment à Séoul à travers des restaurants qui font beaucoup parler d'eux désormais sur la food scène, j'allais dire la scène internationale de la gastronomie. Il y a une autre question d'auditeur qui nous dit « Je pensais que la cuisine coréenne ressemblait à la cuisine nippone. »
Pas du tout.
Enfin, pas du tout.
Il y a très peu.
Il y a quand même pas mal de points communs.
Oui, on a ces pâtes le soba, et donc les pâtes au sarrasin, tout ça. Mais il y a très peu parce qu'on est beaucoup plus dans cette côté fermentation. La table japonaise, il y a un énorme raffinement japonais.
Il y a de la fermentation au Japon.
Oui, mais beaucoup moins.
Les umeboshi, vous les évoquez.
Oui, vous avez
les petits légumes marinés.
Mais de nouveau, on est dans le pickle qui va servir avec le riz. Au petit déjeuner, par exemple, on va prendre cet umeboshi avec son riz. Avec mais on n'a pas cette généralité. On n'a pas cette généralité. Par contre, il y a des similitudes. Le poisson cru, c'est kue, comme yukue, donc le plat de tartare.
Yukue, ça c'est le tartare de bœuf. Hein,
yuk, bœuf,
dont votre recette figure aussi sur notre site.
Donc, mais non, il y a certaines similitudes, mais il y en a vraiment pour moi très très peu.
Je vous propose une autre petite recette. Allez, on part sur des épinards blanchis que vous faites aussi souvent au sésame.
Oui.
Comment on s'y prend?
Tout simple. À la différence de les faire sauter. À la différence de les faire sauter comme on ferait nous, comme on ferait chez nous à l'huile d'olive ou autrement. Là, on les blanchit. C'est une recette extrêmement simple. Et puis on a un assaisonnement qui est dans les grands classiques pour de qu'on appelle le namul en Corée.
Oui.
C'est sauce soja, sésame.
Oui.
Ail. Un peu de ciboule.
Très bien.
Et voilà.
Et
sésame grillé, très important.
Donc vous blanchissez les épinards.
Ouais.
Et ensuite. Ah, vous les avez fait?
Oui.
Mais attendez, on veut goûter.
Oui, voilà.
Extraordinaire.
On sent l'ail. Hein. Pourtant, j'ai pris de l'ail frais pour ne pas être trop agressif.
Voilà, c'est un peu bon. Par ici.
Et puis, il y a la note de sésame. Et puis, un dernier mot, il nous reste vraiment une poignée de secondes.
Ça, c'est la première chose que
sur
j'ai...
Sur cette incroyable boisson de couleur rouge.
Oui, voilà. Alors, ça, c'est la première chose que j'ai goûté quand je suis arrivé en Corée. La toute première chose à emmener dans une maison de thé, et j'ai goûté ça, c'est omija. Ça veut dire 5 saveurs. Enfin, c'est 5, c'est surtout 4, donc sucré, salé, amer. Et
c'est un petit côté canneberge, Jirel.
Oui, exactement, j'ai la même famille, c'est Shisandra.
C'est un peu
c'est une petite baie rouge qu'on vend séchée. C'est décanté à froid. Donc on met 12 heures.
Vous les avez fait tremper.
Trempé, fini. Et même le sucre est ajouté à froid.
Et le sucre, il y en a très peu, hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui.
Peu sucré, un peu astringent,
voilà.
Hyper rafraîchissant.
Mais tout à fait rafraîchissant, c'est ça le.
On les trouve où, c'est omija?
Moi, je les ai ramenés évidemment de Séoul.
Et quand on n'a pas la chance d'aller en Corée,
je suppose qu'on peut les trouver sur Internet. On doit googler, on doit pouvoir trouver omija.
C'est vraiment une
Non, c'est extraordinaire.
Une infusion à froid, et j'imagine que c'est bon pour la santé.
Tout à fait, oui.
Parfait.
Et vos épinards sont magnifiques.
Ouais.
Ah, plus facile à faire.
Merci beaucoup.
Comment vous les appelez déjà, ces épinards blanchis?
Donc c'est namul.
D'accord.
C'est la famille des namul.
Très bien pour cuisiner coréen. Citons également un petit livre fort bien troussé qui nous a servi pour la préparation de cette émission, le petit livre du kimchi et autres plats coréens aux éditions Marabout. Merci beaucoup Jean-Pierre, Gabriel. Qu'est-ce
Avec
qu'il
plaisir.
Faut vous souhaiter là pour les prochains mois?
Je sais pas encore.
Un livre sur la cuisine coréenne peut-être?
Sans doute, oui. Un autre sur le food pairing, on verra ça.
D'accord. Et rappelons que vous êtes aussi l'auteur donc d'une superbe anthologie de la cuisine thaï chez Faidon.
Qui va sortir en version réduite Thai Quick and Easy.
On va déguster.
Est-ce qu'on a le droit de faire du bruit en mangeant ses nouilles en Corée?
Il faut faire du bruit, sinon on se brûle.
Je vous donne rendez-vous dimanche pour une émission en direct. On passe sur le grill un des légumes stars de l'été, la courgette. À demain, si vous avez encore faim.